plein les oreilles. Bonjour amis lecteurs, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles. Des titres, il y en aura beaucoup encore aujourd'hui. On va apprendre beaucoup de choses et sur plein de sujets différents. On va recevoir Michel Brûlé. Ça faisait longtemps que Michel n'était pas venu, au moins par téléphone pour participer à notre émission. On va en apprendre beaucoup, entre autres, sur l'Égypte et sur un être qui a, entre guillemets, peut-être fait l'Égypte. Elle va nous en parler. Je vais aussi m'adresser à Brigitte Harrison et Lynn Saint-Charles qui ont ensemble co-écrit un livre fantastique qui s'appelle L'autisme expliqué aux non-autistes et qui sont aussi à l'origine du programme SACAD. SACAD, c'est un petit peu comme la langue des signes, mais pour les personnes autistes. Et puis, je vais aussi recevoir en direct en studio Thibaut Temmerman. Tiens, j'ai oublié de mettre 2M à votre nom, mon cher ami, parce qu'il est, je lui dis ça, il est déjà là, qui va nous parler d'un livre qu'il a lu en tant que lecteur bénévole. Et puis on va retrouver aussi Yannick Olassa, grande lectrice parmi les lectrices. Yannick, qui elle est beaucoup confinée à la maison à cause de la sclérose en plaques qui l'afflige, et du coup elle lit énormément et ça lui fait tellement plaisir de nous en parler à cette émission-là. Alors si vous le voulez bien, eh bien on va commencer tout de suite avec Michel Brûlé que je retrouve dans quelques secondes. Bonjour Michel.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va bien. Oh, mais je vous entends une bonne voix, une voix bien assurée, sûre d'elle, confiante.
Oh, oui, mais non.
Il faut que je vous dise qu'il faut quasiment que je lui torde un bras virtuel à Michel pour qu'elle participe à l'émission. Ça vous fait toujours aussi peur, hein?
Ah ben enfin, on se débrouille.
On se débrouille. Mmh. Alors, Amenhotep.
Ben oui,
sacré personnage et sacré auteur aussi que
oui,
cette
c'est notre
Pauline
Christian
Gedge.
Jacques hein. National. C'est notre Christian oui. Jacques à nous, oui. Pauline Gedge, qui écrit des livres sur l'Égypte notamment depuis les années 80. Et cette trilogie, j'ai choisi la trilogie qui n'est pas disponible ici en audio, mais demandez-la.
Oui, c'est ça. Ben, il y a le premier tome, hein, je pense, est disponible.
Bon, possible. Quand j'avais regardé,
oui.
Je ne l'ai pas vu.
Oui, oui, oui.
Mais bon, s'ils ont commencé à le faire, tant mieux. Mm-hmm. Moi, je l'ai lu ailleurs. Puis,
il faut nous dire où, d'ailleurs, parce que ça va rendre service à tout le monde.
Bon, ben,
parce que vous
oui,
savez, il n'y a pas que le SQLA. Si un livre est absent de là, eh ben, écoutez, si vous avez très envie de le lire, alors où aller, Michel Brûlé?
Ben, c'est chez EOL de l'association Valentin 8. C'est un service qui est à l'association Valentin 8. Mais ça devrait se faire par entente. C'est normalement, ce n'est pas accessible aux individus, pas pour le moment, à moins peut-être d'exception. J'ai eu la chance, moi, à cause de une sorte de circonstances, d'y accéder, mais normalement, ça devrait se faire par entente. Et depuis des années, depuis, je dirais même 5-6 ans, on essaie de persuader BANQ de faire ces
ententes-là, oui.
Comme ailleurs, comme ça se fait avec d'autres, en Suisse, en Belgique et tout, avec la VIH, et tout va bien.
Oui.
Mais ici, je ne sais pas s'il y a, peut-être des réactions de bureaucrates, de fonctionnaires qui font que... Bon,
mais j'ai déjà parlé, moi, avec une personne non-voyante, qui est Gérard Saint-Denis, pour ne pas le nommer.
Et
Gérard aussi, il est inscrit donc chez... Alors, si on fait Valentin Huy, H-U-Y...
H-A...
H-A-U-Y. Oh là là, H-A-U-Y. C'est important qu'on l'épelle.
Pouvez,
si vous faites ça, oui.
Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez l'essayer, mais normalement, c'est sûr que quand il n'y a que quelques individus, ça va toujours. Mais l'idéal, ce qu'ils veulent, c'est créer une entente avec
les autres. Bien sûr, bien sûr.
Comme ils ont ailleurs.
Alors, parlons de... Amenhotep, oui. Amenhotep, voilà, je vais finir par le dire. De Pauline Gedge.
Ben, Pauline Gelge. Amenhotep, c'est une trilogie, Amenhotep, l'élu des dieux, qui est parue en 2015, donc c'est récent. Mm-hmm. Et elle a progressé dans sa connaissance de l'Égypte depuis ses premiers livres. Maintenant, Amenhotep, son nom, c'est Ui. Ça commence quand il est petit garçon. Le premier tome, Amenhotep, l'élu des dieux, qui porte le même nom que la trilogie, on le voit... On voit le système d'éducation qu'il a, il a eu la chance, même s'il était paysan, il a eu la chance d'aller dans une école de scribe dans un temple. Et on le voit à 13 ans, il est victime d'un accident, il s'en sort comme par miracle, mais affublé enfin d'un don. Celui de guérir les malades, oui, ça va, mais aussi en les touchant, de voir leur avenir. Et ça, ça fait pas trop son affaire, ça le rend malheureux parce qu'il peut arriver des, il peut voir des drôles de choses. Et alors il décide finalement de se servir du don de guérir les malades, guérir les petites gens dans son village jusqu'au moment où arrive le deuxième tome, Amenhotep, le devin d'Égypte. Le pharaon, Toutmosis IV à l'époque, entend parler de la chose et le réclame à la cour pour d'abord servir lui, mais servir surtout son fils. En fait, c'est une manigance un peu de la mère du fils. Il s'appelle lui-même Amenhotep. Il s'appelle Amenophis en grec, Amenophis III, plus connu sous ce nom-là. Et c'est ce petit prince-là qui montera sur le trône à l'âge de 12 ans. La mère de sa mère à lui veut avoir ce devin-là pour le guider éventuellement pour devenir son conseiller. Alors, on voit ça. Dans le conseiller d'Égypte, qui est le tome 3, là, on le voit, Amenophis III est arrivé au pouvoir et il appelle Amenhotep ce Ui, qui s'appelle en fait Ui, mais il l'appelle Amenhotep parce que lui, c'est un peu le même nom que lui.
Hein, oui,
c'est
d'accord. Le même
nom. Donc, il se rend gloire à lui-même en faisant ça. Donc, appelons-le Ui, pour pas trop se mêler. Ui devient effectivement le conseiller d'Amenophis III et il va occuper toutes sortes de fonctions très, très importantes, architecte royal et même ça va aller jusqu'à grand vizir d'Égypte.
L'armée, tout ça, tout, quoi.
Tout ça, et on le voit vieillir et on le... Bon, est-ce qu'il est... Il a une mission. Tout au long de ce livre-là, on va voir qu'il a une mission, rien moins que sauver l'Égypte. Là, je ne vous dis pas de quoi. Il faut lire le livre pour savoir. Il faut lire le livre pour savoir s'il va réussir. Moi, ce que je trouve important dans ce livre-là, personnellement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est une très, très belle histoire d'amitié. L'histoire d'amitié entre lui et son copain Nicole, l'aristocrate. Il s'appelle aussi Toutmosis. Il y a des noms qui se ressemblent là-bas. Hein? C'est comme ici les gens et les Jacques, et puis que voulez-vous.
Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais j'imagine que quand on le lit, c'est très clair.
Voilà, tout à fait. Tout à fait clair.
D'ailleurs,
une
oui, pardon.
Histoire d'amour, j'aimerais terminer.
Bien sûr.
J'ai peur d'oublier. Vous poserez des questions après.
Non, allez-y,
mais
Michel.
C'est une très, très belle histoire d'amour aussi, mais bien triste aussi, parce que le don dont a hérité ce pauvre Ui est assorti d'un prix, à payer, un prix assez terrible pour un homme. Ensuite, c'est aussi une quête. C'est une quête, et la mission est un peu reliée à ça, c'est une quête qui est décrite avec beaucoup, beaucoup de poésie. C'est très, très intéressant. C'est comme un conte. Ça se lit comme un conte, particulièrement dans le premier tome. Ça se lit comme un conte. C'est merveilleux. Et finalement, c'est encore une fois, dans tout ce que Pauline Gedge fait, c'est encore une fois un hommage aux femmes d'Égypte. Je pense que c'est très, très, très important. Dans son œuvre, il faut toujours le souligner. Alors,
dites-moi, Madame Gedge, est-ce que c'est une Canadienne?
Oui.
Elle écrit en français ou c'est traduit?
Elle écrit en anglais, ce sont des traductions, et je dirais des traductions quand même bien faites.
OK, parfait. Oui. Parfait.
On ressent la poésie, tout ça. Et, non, c'est très bien fait.
Bon, et...
de temps en temps, mais rien de...
Rien de grave.
Rien de fatigant.
Je voudrais quand même signaler aux gens qui nous écoutent que si Mme Gage, malheureusement, n'est peut-être pas assez représentée au sein du SQLA, à Inca, par exemple, il y a deux livres qu'on peut retrouver d'elle, dont notamment celui qui a été son grand succès, hein, celui qui l'a fait connaître, c'est La Dame du Nil.
La Dame du Nil, l'histoire de Hatshepsut. En fait, elle a, pour Lynn Gage, un intérêt particulier pour les 18e, 19e et 20e dynasties. Parce qu'on le voit aussi dans d'autres livres que j'ai lus récemment, le Scorpion du Nil, oui. Et la Vengeance du Scorpion. Magnifique, c'est bien, bien le fun. C'est une histoire, si vous voulez lire une histoire là, juste pour triper, puis bon, Dieu, qu'est-ce qui va arriver là? Bon, c'est magnifique ça aussi.
Ah, ben écoutez, ça nous donne le goût, hein? Autour de la table, l'Égypte. C'est ça l'idée. Mais absolument, mais c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs, Michel et tout le monde. Je voudrais rappeler. On parle là de la trilogie Amenhotep, A-M-E-N-H-O-T-E-P, pardon, T-E-P, de Pauline Gage, G-E-D-G-E, dont on trouve deux livres via Inca qui sont La Dame du Nil, je viens de le dire, et Les Enfants du Soleil. Mais essayez-vous, si vous faites Valentin, oui, on va redire, ça s'écrit H-A-U-T-R-E-M-A-Y. Voilà. Essayez-vous c'est le service EOL et il y a une collection de livres audio absolument faramineuse.
Et je dois signaler qu'il y a aussi cette collection numérique, il y en a une en braille numérique, et je dois signaler aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres de la rentrée chaque année qui sont tout de suite mis en qui sont tout de suite adaptés en audio.
C'est ça, exactement, c'est ça qui est fantastique.
Et en audio, vous avez la synthèse, le numérique sur synthèse, mais vous avez aussi le numérique lu par des lecteurs. Mm-hmm. Et moi, je préfère ceux-là.
Exactement. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir vraiment éclairés avec tout cela. Michel, je voudrais vous dire à bientôt.
Ben, à bientôt. Merci de m'avoir invité.
D'accord. Salut, merci. L'autisme expliqué aux non-autistes. C'est signé Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, que j'ai prénommée Lynn tantôt, et je m'en excuse. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
On est vraiment très, 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 très touchés et très heureux aussi de vous recevoir à cette émission-là. Bon, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai même dévoré, c'est certain. C'est un livre dont on a beaucoup parlé. Vous avez eu la chance, et j'en suis très heureuse, pour l'autisme en général, d'être accueillie notamment à l'émission Tout le monde en parle. Ça a dû faire un bien fou, je veux dire, pour ce livre, mais pour toute la communauté des personnes autistes. Très rapidement, je voudrais présenter Mme Harrison. Vous êtes vous-même une personne autiste. D'ailleurs, vous me direz pourquoi parfois on dit une personne autiste ou une autiste.
Les gens ont de la difficulté à dire autiste à quelqu'un parce qu'ils ont l'impression de l'insulter.
C'est ça.
J'ai appris ça à travers les entrevues.
Et la même chose que pour un handicapé, je m'excuse.
Et voilà.
Donc, on va dire souvent une personne handicapée plutôt qu'un handicapé ou une handicapée. Et on vous présente à un moment donné dans un article que j'ai lu sur vous comme une architecte du langage entre les... Non, mais j'ai beaucoup aimé ce titre d'architecte du langage, car je précise qu'en plus d'être la co-auteure, du moins vous avez participé beaucoup à ce livre-là, vous avez aussi créé avec l'autre invitée, Madame Saint-Charles, bonjour, vous avez créé toutes les deux Saccades. Vous êtes toutes les deux spécialistes en autisme. Vous, Madame Saint-Charles, vous ne vivez pas avec l'autisme, mais vous connaissez bien l'autisme. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir spécialiste en autisme?
C'est une très longue histoire, Oui, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à l'autisme. Ah. Pourquoi les gens me posent la question? Puis j'avais personne dans ma famille, j'avais personne autour de moi comme tel, mais ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait fortement.
C'était ton métier?
Et après ça, j'ai fait le travail là-dedans pendant bien des années.
Vous êtes un binôme inséparable ou est-ce qu'on peut vous séparer à l'occasion? Est-ce que vous seriez venue seule, Mme Harrison, Brigitte?
Pas dans Montréal.
Non, OK.
À la campagne, oui.
À la campagne, oui. À Montréal, c'est comme trop de...
C'est gros.
C'est gros, ouais. C'est ça, pour la situation. Et puis, vous, Mme Saint-Charles, le fait de travailler avec une personne autiste, ça a dû faire avancer beaucoup votre travail.
Effectivement. Puis j'ai fait le choix parce que je travaillais dans les services publics auparavant pendant près de 30 ans.
Oui.
Et quand Brigitte est venue me demander si je voulais faire le travail avec elle, j'ai quitté justement les services publics et pour être capable de pouvoir avancer plus. Et enfin, j'avais une réponse avec ce que Brigitte nous apportait, avec tout ce que j'avais vu dans le passé.
Exactement.
Et je trouvais que le système avançait pas suffisamment rapidement. Oui. Moi, j'avançais en âge, puis je me disais, non, on peut pas se permettre d'attendre encore et encore toute cette grosse machine-là. Alors, je suis partie avec Brigitte faire créer sa CAD.
On peut dire que l'autisme, vous connaissez bien ça, l'une comme l'autre, évidemment, pour deux raisons différentes. Mais est-ce qu'il vous arrive encore, est-ce qu'il y a encore des fois où vous dites, celle-là, je la comprends pas. Là, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ces cas-là, vous vous retournez, j'imagine, vers Brigitte Harrison. Mais est-ce qu'on en sait encore vraiment beaucoup sur l'autisme, finalement?
On apprend encore, je vous dirais, à tous les jours par rapport à l'autisme, même avec l'âge qu'on a, avec l'expérience qu'on a. On est constamment en train de se questionner, de fouiller, de tenter de trouver les réponses. Tout est à faire en autisme. On a longtemps pensé que c'était associé avec la déficience intellectuelle. Oui. Ces années-ci, on pense que c'est du trouble de comportement, mais ça n'en est pas. On sait que c'est un trouble neurodéveloppemental, un trouble de connexion. Alors, c'est plus dans le champ des neurosciences. Alors, tout est à découvrir.
Oui, Brigitte, vous vouliez dire quelque chose?
On a une clé pour travailler, mais on n'a pas fini de comprendre.
Oui. Et vous avez une phrase, en fait, je voulais finir par cette phrase-là, mais finalement, je vais la citer maintenant, parce que quand je l'ai lue, elle m'a bouleversée, cette phrase. Je peux même vous dire, j'ai eu quasiment les larmes aux yeux. C'est lorsque vous dites, Brigitte Harrison, ce qu'il y a de pire que d'être autiste, c'est de ne pas avoir le droit de l'être.
Ouais.
Et ça me fait encore le même effet.
Oui.
C'est une forme, ben j'aime pas le mot enfermement parce que ça existe dans le domaine de la déficience mentale et donc on sait que ça n'est pas une déficience mentale, mais c'est un enfermement quand même, je veux dire, de pas se faire comprendre.
C'est terrible ce que les autistes vivent présentement. C'est terrible la souffrance des personnes autistes parce que quand c'est le système de communication qui est touché, tu peux pas dire au secours. Et comme c'est le système d'émotion qui arrive en dernier, ça paraît pas non plus dans le visage. Fait que les personnes autistes sont coincées pour attendre après les gens pris comme ça avec une majorité qui a pas de déficience intellectuelle en plus.
Non, c'est ça.
Donc c'est pour ça qu'on a décidé un jour, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus simple de passer par le langage conceptuel, d'aller donner la voix aux autistes, leur donner une voix, et à partir de ce moment-là, on va régler la base, et on pourra passer à autre chose. Parce que je suis certaine, moi, les gens, ils font pas exprès, ils pensent bien faire, mais c'est terrible ce qui se passe.
Cela doit. Et quand on lit ce livre-là, qui est bien écrit, parce que je le précise pour les auditeurs, hein, l'autisme expliqué aux non-autistes, ne pensez pas qu'il s'agit d'un livre scientifiquement parlant, inaccessible. C'est tellement pas le cas. Il y a des phrases comme ça, moi, que j'ai surlignées. Celle-ci, par exemple, qui est à la fin du bouquin. Bon, les origines de l'autisme restent un mystère, mais le fonctionnement du cerveau autistique nous est de plus en plus accessible. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même.
Oui, oui. Hein? Et chez nous, les filles en neuropsy lisent beaucoup on essaie de se tenir à jour avec les études pour qu'on essaie toujours de mettre à jour ce qu'on sait et qu'on arrive à comprendre de mieux en mieux. Lise pose encore beaucoup de questions.
Oui. C'est bien. Bravo, Lise.
Oui, dites-lui merci pour son million de questions.
Ah oui, hein, sûrement. Parce qu'il y a des réponses qui font avancer les choses.
Il faut faire avancer tout ça encore. Ouais. Et on a la chance, c'est exceptionnel d'avoir une personne comme Brigitte qui puisse être capable de nous décrire ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Donc, pour nous permettre d'avancer, quand on fait référence au langage conceptuel, puis on fait souvent le parallèle en disant qu'en surdité, c'était des petites jumelles sourdes qui avaient comme mis ça en place il y a près de 300 ans. On dit en autisme, c'est Brigitte comme personne qui est concernée par cette problématique-là qui nous a comme fait découvrir ça, ce mode de communication-là qui répond finalement à toute personne autiste, qu'elle ait 2 ans ou qu'elle en ait 75 ans, que ce soit une personne, un ingénieur ou un grand-parent qui est autiste ou un enfant tout petit, Ça n'a pas d'âge et ça permet, c'est incroyable le travail que ça peut faire pour les personnes autistes.
Alors, toutes ces questions dont vous parlez, Brigitte Harrison, elles sont posées dans ce livre-là. C'est-à-dire que si vous, comme moi, on se pose la question, par exemple, pourquoi la personne autiste peut-elle réagir très fortement lorsqu'elle se fait une petite égratignure sur le bras et ne pas réagir du tout lorsqu'elle a une fracture du fémur? Bon, c'est le genre de phrase, on ne pourra pas répondre à cette émission-là, mais c'est pour indiquer aux personnes, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-il très sélectif dans le choix des aliments? Pourquoi ceux-ci ne doivent-ils pas se toucher dans son assiette? Et il y en a comme ça des questions. Là, on sent toute la curiosité de Lise Saint-Charles et on sent vos explications parce que vous êtes là pour le côté explicatif des choses. À un moment donné, qu'est-ce que j'avais noté ici? C'est une très belle explication que vous donnez, en tout cas, peu importe. Il y a vous qui vous souvenez, Brigitte, pour nous. Ouais. Et là, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous vos souvenirs, vous en parlez au passé comme si c'était fini. Ça veut dire que tous les blocs de Brigitte se souvient, tout est écrit à l'imparfait ou au passé. Par exemple, avec des repères forcément externes, la vie n'est pas simple. La notion du temps est très différente, écrivez-vous. Ma routine consistait à manger à heure fixe, à prendre le repas du midi à midi pile. Si le téléphone sonnait à 11h57, c'était la catastrophe et j'avais une poussée d'anxiété. Si je répondais et que l'appel durait plus de 3 minutes, je ne pouvais plus manger. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout? Vous ne vivez plus ça du tout, Brigitte Harrison?
Je le vis beaucoup moins. C'est beaucoup moins présent. Il y a beaucoup de fluctuations parce que dès que je deviens trop fatiguée ou que ça devient plus complexe dans ma vie, je me retrouve moi-même. Mais sinon, j'ai beaucoup évolué. Mon cerveau a commencé à planifier aussi un peu plus. Alors, je peux répondre au téléphone même pendant le repas maintenant. Ça fait qu'il y a des trucs que je fais maintenant que je faisais pas du tout, dont j'ignorais l'existence avant.
Autrement dit, comme c'est d'ailleurs écrit dans ce livre-là, à la fin du bouquin, on ne guérit pas de l'autisme.
Non.
Hein? Mais
il y a évolution.
Mais il y a une évolution favorable.
Il y a une évolution favorable, il y a une qualité de vie qui s'installe et on ne peut pas guérir de quelque chose qui tombe dans l'identité non plus.
Non, c'est ça.
Fait que de toute façon.
Alors justement, pardonnez-moi Brigitte, je reviens sur vous, Lise, quand je dis que vous expliquez, par exemple, elle explique ceci. Sans la notion du temps, on ne peut pas intégrer les concepts de jour et de nuit. Ça, c'est encore un concept très, très difficile. Pour les autistes. Et pour les autistes, tout se déroule, écrivez-vous, en temps réel. Sans pouvoir détecter la fatigue, sans la notion du temps qui donnerait un sens au jour et à la nuit, comment comprendre qu'il faut dormir? C'est le genre de question auquel...
On commence à mettre des réponses,
mais c'est difficile, c'est long.
Mais on avance et on dit toujours, pour nous, le plus beau cadeau, dans le fond, qu'on pourra laisser, le plus bel héritage aux personnes autistes, ce sera le langage conceptuel.
Oui.
Cette langue-là qui va leur permettre enfin de pouvoir évoluer. Puis il n'y a pas d'âge de fin pour l'évolution. On a des gens de la clinique qui viennent au centre d'expertise qui ont 75 ans et ils ont encore la chance d'évoluer pour que la vie soit plus facile pour eux.
Alors, cette clinique, évidemment, vous nous en parlez aussi beaucoup et vous nous parlez beaucoup de ce langage-là que vous avez mis sur pied. C'est à Québec?
Oui, dans la ville de Québec pour l'instant. Oui,
mais il va y avoir des branches qui vont ouvrir.
On verra avec l'énergie qu'on aura.
Avec l'énergie qu'on aura, c'est ça.
C'est hyper complexe de transmettre, de superviser, d'avoir des gens qui restent en place. Et on est chanceux. Nous, on n'a pas vraiment beaucoup de roulement de personnel. Mais c'est très complexe de transmettre tout ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait lire, je devrais dire. Mm-hmm. Et on va commencer par asseoir la première clinique comme il faut.
Comme il faut.
Pour ne pas faire comme d'autres ont fait et déraper parce qu'ils sont allés trop vite.
Mm-hmm.
Et à partir de ce moment-là, on verra comment on va le faire. Peut-être qu'on ira vers une accommodation à distance pour les gens. On a déjà commencé de toute façon.
Oui.
Il y a moyen de faire
quelque
chose maintenant.
Il y a moyen maintenant avec Skype, FaceTime, tout ça.
On est capable de faire de la supervision et des suivis à distance. Moi, je fais une blague. Je dis comme l'autisme est un très gros tabou, faisons-nous un grand complexe.
Vous avez un sens de l'humour, Brigitte. Là, depuis que vous êtes arrivée tantôt, là, je l'écoute, elle a un sens de l'humour assez développé, merci. Ouais. Et il y en a une qui a un sens de l'humour aussi assez développé, c'est Kim Thuy.
Ouais.
Et Kim Thuy, vous voyez beaucoup, hein, c'est vraiment devenu une amie maintenant. Et elle est le témoignage parental là-dedans, parce qu'évidemment, elle a son fils, hein, Valmont, qui est autiste. Et alors, elle témoigne, hein, elle nous raconte des choses. Ouais. Comme par exemple ici, Kim Thuy. Comme tout parent, j'attendais Valmont à son retour de l'école sur le trottoir. Dès qu'il débarquait du véhicule, je me précipitais vers lui, je le touchais, je le bombardais de questions. Comment ça va? T'es fatigué? Maman t'a préparé du poisson? Enfin bon, en plus on l'imagine bien, Kim Thuy. 10 fois sur 10, Valmont m'évitait en courant très vite vers la maison. Il se réfugiait par la suite dans le creux du sofa, les doigts dans les oreilles en transpirant à grosses gouttes. J'imagine que ce que sa CAD a permis, c'est ce qu'ensuite elle a fait avec son garçon. Depuis que Brigitte et Lise m'ont expliqué le malaise provoqué par ma trop grande présence, je reste assise. Jusqu'à ce que Valmont soit prêt. Il me revient alors en dégageant mes cheveux pour humer ma nuque, pour me déposer des baisers sur les paupières, les joues, sous le menton, la tête. Et je reste tranquille pour qu'il me voie. Je reste tranquille pour ne pas le brusquer. Je reste tranquille pour l'aimer à son rythme, à sa manière. En fait, c'est très logique. On ne peut pas aimer un poisson en le flattant comme un chien. Je sais comment mieux aimer Valmont. Ça vous fait encore rire, et ouais. Pourtant, vous le connaissez, hein, ce
Absolument.
Livre, mais
ouais.
c'est vraiment du qui. Mais c'est pour ça ouais. que ce livre est essentiel, parce qu'il y a une humanité, tout est incarné, quoi. Parce ouais. que l'autisme est incarné par vous, Brigitte Harrison, le travail sur l'autisme est incarné par vous, Lise Saint-Charles, et puis il y a ces témoignages de Kim. Saccad, donc, on peut vous rejoindre comment si on...
Par
Internet, si on fait Saccad avec deux C, S-A-C-C-A-D-E.
Il va sortir rapidement en premier, oui.
D'accord. Ouais. Et puis, je voudrais aussi finir par vos mots à vous, Brigitte, si ça ne vous dérange pas. C'est en page 94 que j'avais relevé ça. J'en ai déjà parlé. C'est, parce que moi aussi, je me posais la question, pourquoi vous parliez encore à l'imparfait et au passé, mais... Vous avez déjà répondu à ça. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Vous savez, en seconde partie, vous serez sûrement déjà partie, mais je vais lire un extrait, quelques pages, pour qu'on se rende compte. Et j'ai choisi l'extrait de la coupe de cheveux, parce que j'ai trouvé ça tellement éloquent. Pourquoi les autistes n'aiment pas se faire couper les cheveux. Je vous remercie beaucoup, Lise Saint-Charles. Merci, Brigitte Harrison. Je rappelle le titre du livre, disponible évidemment maintenant en audio au SQLA, « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Et puis, je vais vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup.
Merci pour ce que vous faites, parce que j'ai l'impression qu'avant vous, il n'y avait pas grand-chose. Hein, mais là, on touche à quelque chose de plus concret.
Absolument. Ouais. Les gens se rassemblent.
Ouais, oui, hein. Je vous dirais que depuis 70 ans, j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup, beaucoup d'une réponse oui. vraie cette fois-ci.
Et je finirai par ça. D'où ça vient, autisme? Ça vient d'auto, comme moi-même.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Alors, cela dit tout.
C'est bien dit.
C'est bien. Merci beaucoup, Brigitte Harrison. Merci Lise Saint-Charles. Plaisir de vous rencontrer.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Merci.
Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, c'est la seconde partie de l'émission des livres plein les oreilles qui va s'ouvrir avec Thibaut Timmerman, bénévole, depuis maintenant déjà quelques années ici chez Vues et Voix. Il est déjà en studio. Salut, salut, salut Thibaut.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Ça va bien?
Ça va très
les
bien.
Les os, les genoux, tout ça.
Mais oui, tout va très
tout
bien.
Tout va très bien, Madame la Marquise. J'adore le titre du livre dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui.
Je vous laisse aller, je vous laisse le plaisir de nous le donner.
Sans transition, puisqu'on parlait de santé. raconter. Ça s'appelle « Aux petits mots, les grands remèdes ». Aux petits mots, M-O-T-S, voilà. Puisqu'il est question de bibliothérapie. Mmh. Et avant que j'oublie, l'auteur, c'est Michael Huras, qui est un romancier français, 40 ans, romancier de l'Est de la France, un professeur de lettres. Et puis, il a déjà écrit, je crois, 4 romans présentement. Celui-ci est son 3e.
D'accord. Alors, Huras, comme ça se prononce,
oui.
U-R-A-S.
U-R-A-S.
Voilà.
Apparemment d'origine italienne. Son père était de Sardaigne. Ils ont fui la misère pour s'installer en France. La maison d'édition Prélude nous donne toute sa biographie.
Ah bah c'est parfait. Et ce Michael Huras-là, dans ce livre-là, nous amène dans le milieu littéraire.
Dans le milieu littéraire. Je dirais, en fait, je lis un autre livre de Michael Huras présentement qui parle de Proust. Là aussi, en fait, on a l'impression qu'il aime les personnages, qu'il aime les livres. Ça tombe bien, nous aussi, nous aimons beaucoup les livres. Et en effet, il a une approche sur les livres qui est assez originale, en tout cas que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que... Voilà, on nous invite vraiment à oublier les livres de croissance personnelle avec leurs recettes toutes faites pour le bonheur à portée de main ou à portée de volonté. On met également de côté les personnages un peu névrosés ou qui ont une approche un peu névrotique de la lecture, comme Don Quichotte ou Emma Bovary. Non, là, c'est la lecture qui nous fait du bien, les livres, tout le bonheur qu'ils peuvent nous apporter. Ça s'appelle la bibliothérapie. Donc un peu comme l'art thérapie, voire la danse thérapie, mais là par les livres.
Le mieux-être par la lecture.
Le mieux-être par la lecture. Et donc vous l'aurez compris, pas par des livres de développement personnel, mais vraiment par des romans, des classiques, du un peu plus neuf, dépendamment de la situation des patients, du personnage, du narrateur par ailleurs, Alex. Qui, on le dit dans le livre, s'est formé au Canada.
Ah, voilà. Tiens donc.
Oui, oui.
Alors donc, il est quoi ? Il est bibliothérapeute ?
Il se définit comme bibliothérapeute, effectivement.
Okay.
Et donc, il a fait, on l'apprend un petit peu dans le livre, il fait sa formation au Canada, donc. Ouais. Et en quoi cela consiste ? Bon, je pourrais vous lire un extrait pour expliquer. Mais en gros, il rencontre donc son patient qui lui aurait référé par des parents, des amis, ou qui cherche des méthodes un petit peu non traditionnelles pour essayer de trouver une solution à leur mal-être. Et ils discutent comme pourrait le faire un psychothérapeute, tout simplement, je crois, un psychologue.
Ouais, ouais.
Et à la fin, il dit, je pense que, voilà, au lieu de donner une prescription médicale, aller me chercher tel médicament à la pharmacie du coin... Il lui dit, je vous conseillerais de lire tel livre ou telle nouvelle, etc. Et à notre prochaine rencontre, nous allons en parler, vous et moi. Et donc, ils lisent ensemble le passage à voix haute. Ils en discutent. Quel est ce personnage? Comment il agit? Qu'en avez-vous pensé? Quels sont les liens que vous pouvez faire avec votre vie? Et par exemple, parmi les patients, il y a un footballeur très connu qui veut absolument garder l'anonymat parce que dans son milieu sportif, il ne faut pas donner l'impression qu'on ait besoin d'aide parce qu'on est faible. Mais il a envie de tester quelque chose de différent avec des personnes qui ne vont pas le juger. Donc, ils font ce footballeur extrêmement connu fait appel donc au narrateur,
Alex. Qu'est-ce qu'on lui recommande alors? Qu'est-ce qu'il faut qu'il lise?
Il lui recommande... Ulysse de Homère. Ça paraît très étonnant. Ulysse qui parcourt, donc Ulysse qui a fait un beau voyage, heureux comme Ulysse. Et dans le but de lui dire, Ulysse, il avait un but dans la vie. Est-ce que vous sentez que vous-même, sur votre long chemin, ça fait des années que vous prévoyez votre carrière, avez-vous l'impression que vous arrivez au bout de votre voyage? Voilà. Je ne veux pas dévoiler
c'est
ce genre de
Est-ce que vous vous êtes posé la question, du coup, vous, en lisant ce bouquin, tiens, et moi, quand je ne vais pas bien, qu'est-ce qui me ferait du bien? Non, parce que tout de suite, je me la pose. Quel est le bouquin que les copains devraient me mettre entre les mains quand je ne file pas? Tu sais, après tout,
Ça peut,
quelle
ça
bonne idée, hein.
Mais oui, oui, ça pourrait être, des livres un petit peu humoristiques. Et puis d'ailleurs, oui. Michael Uras a une plume que je trouve très enlevée, très légère.
C'est vrai.
Pas commerciale pour autant, mais en tout cas, bah, vraiment simplement agréable, et c'est un plaisir. Et le personnage
quand
c'est
bien
son
fait.
Plaisir de la lecture. C'est ça. Et je donnais peut-être l'impression de
non,
faire
non,
un jugement.
Non, pas du tout. Vous nous en lisez un petit bout ?
Mais oui, je veux bien. Alors ouais. Là, c'est un autre personnage dont il est question. Un personnage qui s'appelle Yann. Et donc, Yann, c'est un adolescent qui, malheureusement, à la suite d'un accident de voiture, est complètement défiguré. Il est incapable de parler. Il ne parle d'ailleurs que par le biais d'une tablette électronique. Et donc, ils essayent par la lecture de le faire sortir de son mal-être. Et donc il est reçu par la mère du jeune homme, et c'est le passage que je vais vous lire qui débute à la page 16. Yann était la prisonnière moderne, une réécriture du roman de Proust, enfermée pour ne plus souffrir. Si j'ai fait appel à vous, c'est parce que vous proposez une méthode intéressante, originale. Nous voulons sortir notre fils de ce mal-être. Et nous avons tout essayé. Mon interlocutrice misait beaucoup sur moi. J'aime sentir l'attente chez l'autre. Pourtant, je ne propose rien de miraculeux. Qui le pourrait, d'ailleurs ? Je n'ai jamais cru au miracle, seulement à la volonté. Enfin, je reviendrai sur ce sujet. Parce que cette phrase, qui semblait sortie d'un manuel de bien-être pour Américains obèses, avait ses limites. Vous pesez 150 kilos et votre IMC est supérieur à 50, mais ce n'est pas un problème. Avec un peu de volonté, vous en ferez 100 de moins d'ici 3 mois. Je vais le chercher. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Mes yeux avaient la mauvaise habitude de chercher la bibliothèque dans toutes les habitations que je visitais. Les livres, leur disposition, leur état, on disait long sur leur propriétaire. Combien d'habitations ne renfermaient aucun livre ? Aucune revue, même. Des lieux sans lecture, coupés de l'intelligence. Ou alors des lieux qui faisaient un usage particulier des livres, cales meubles, tables de chevet, en les empilant sans jamais les ouvrir. Le livre factice, à la couverture souvent horrible, au titre bien réel, le roman de la momie, désespérément vide de mots. Voilà. Et donc, en fait, ces passages fourmis de références littéraires, d'ailleurs, il y en a une à la fin où on décrit un petit peu quels sont les livres qu'il suggère à ses patients, le tout avec humour.
Oui.
Et alors, bien sûr, oui, on parle de bibliothérapie, du bien que font les livres, mais derrière cela aussi, derrière le livre, il y a aussi le fait que le cordonnier, malheureusement, est souvent le plus mal chaussé. Et donc, on suit le propre quotidien d'Alex, ses relations difficiles avec sa mère ou avec sa voisine, un peu acariâtre, ses peines de cœur aussi.
Est-ce que c'est vraiment un grand lecteur en plus ? Est-ce
qu'il
lit beaucoup ?
C'est un lecteur assez obsessif, d'ailleurs. En fait, il a une forme de... c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. Chacune des situations qu'il vit, la Madeleine de Proust, c'est vraiment l'archétype de la synesthésie. Et puis là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque situation à laquelle il est confronté est prétexte à une référence littéraire, un vers, un passage, parfois dramatique, parfois drôle. Et puis d'ailleurs, dans l'extrait que j'ai lu juste après, il se met à repenser justement à la Madeleine de Proust, mais à la Madeleine de Huysmans, que je ne connaissais pas du tout. En tout cas, c'est une version un petit peu... gore tragique de la Madeleine de Proust. On se dit, mais où il est allé chercher ça. Cela. Mais c'est assez plaisant.
Écoutez, vraiment, moi, vous m'avez conquise avec ce bouquin-là que je vais aller chercher, c'est sûr. Au petit mot, Les grands remèdes de Michael Uras, U-R-A-S. Thibaut Temmermann, merci.
Avec grand plaisir. Bye.
Retour sur le livre « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Si vous n'étiez pas présente au début de cette émission, je recevais Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles qui en sont l'auteur. Et je voudrais préciser aussi, parce que pour l'instant, elles ne sont installées qu'à Québec. Hein, et elle disait d'ailleurs qu'elle souhaiterait évidemment pouvoir avoir des antennes à droite et à gauche. Mais je peux aussi vous dire, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'elle donne beaucoup de conférences. Elle se déplace beaucoup, partout au Québec, même à l'étranger. Je veux dire, en France, elles sont attendues. Ce sont vraiment des sommités maintenant dans le domaine de l'autisme. Et, donc, soyez vigilants parce qu'elles pourraient très bien peut-être passer à un moment donné dans votre coin pour vous parler un peu mieux de l'autisme et de ses conséquences et surtout de la façon dont on peut peut-être communiquer avec ceux qui vivent avec l'autisme. Et comme je le fais à chaque émission, un extrait. Nous sommes page 65. Pourquoi la coupe des cheveux devient-elle un drame chez les autistes? Bien souvent, les parents rapportent qu'ils ont beaucoup de difficultés à couper les cheveux de leur enfant autiste. L'enfant refuse, réagit fortement, pleure et exprime vraiment de la peur. Les parents doivent élaborer toutes sortes de stratégies pour arriver à leur fin, moyens qui sont bien souvent très anxiogènes pour l'enfant. Plusieurs parents réussissent à le faire pendant que l'enfant dort. D'autres choisissent d'attendre. Nous savons maintenant que si une certaine étape développementale n'a pas été atteinte, l'autiste ne sait pas que les cheveux repoussent. Il peut croire que ses cheveux sont coupés pour la vie. De plus, il n'a pas la notion du temps. Toucher à ses cheveux signifie toucher à son image, modifier une image qui doit pour lui rester stable. Il n'arrive pas à faire évoluer cette image dans le temps parce qu'elle est figée au temps présent. Sa modification pour la coupe de cheveux devient alors très anxiogène, on le comprend. S'il sait que les cheveux poussent, il ne sait pas nécessairement à quelle longueur et à quel moment il faut les couper. Et si la longueur varie, c'est encore plus mêlant pour lui. Son cerveau lui demande une référence stable pour faire sens de l'expérience, mais il n'en a pas. Alors comme le concept de la repousse des cheveux n'est pas intégré, celui de la coupe de cheveux l'est encore moins. Lise explique. Lise Saint-Charles. Un jour, à l'aide d'outils visuels, nous avons réussi à expliquer à Xavier, un enfant âgé de 4 ans, que ses cheveux poussaient, qu'ils devaient être coupés et qu'ils allaient repousser par la suite. On lui a montré les étapes de la coupe des cheveux. Il a donc accepté, calmement, de se faire couper les cheveux. Quelques heures plus tard, alors qu'il jouait dans sa chambre, il s'est arrêté. Il a mis sa main sur sa tête et nous l'avons entendu dire « Oh non, ils n'ont pas encore repoussé !» Il avait donc compris le sens de couper les cheveux. C'est ça qui est essentiel, quoi. Et Brigitte se souvient aussi. Elle écrit, vous savez qu'elle, c'est la personne autiste, hein, donc elle était avec nous un petit peu plus tôt. Et elle écrit, « Je n'ai jamais changé de coupe de cheveux car l'image que j'ai de moi-même est très statique et doit le demeurer. La mode ne m'affecte pas. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait vouloir les cheveux courts et ensuite longs et ensuite rouges ou ensuite bleus. » Je déteste quand les autres changent leur coupe de cheveux car j'ai beaucoup de difficultés à les reconnaître. Aussi, j'ai commencé très tard à aller chez la coiffeuse. Je supporte encore très difficilement les salons de coiffure parce que tout le monde parle. Il y a beaucoup de bruit, de lumière et d'odeur et la coiffeuse doit constamment toucher ma tête pendant qu'elle fait son travail et tout cela arrive en même temps. » Intéressant, hein, comme témoignage, et ça, il y en a 200 pages. C'est tellement éclairant et c'est essentiel. Bien sûr, pour les autistes, mais évidemment pour ceux qui les entourent, pour mieux comprendre ce phénomène d'autisme-là. Alors voilà, l'autisme expliqué aux non-autistes. Un tout autre sujet maintenant, on se tourne vers Yannick Olassa. Salut Yannick!
Bonjour!
J'aime voir.
Vraiment, j'ai entendu l'extrait et vraiment, comme vous le disiez, c'est très, très éclairant.
Ah, c'est
compris plein de choses.
Ah, écoutez, puis ça, c'est juste une page. Imaginez, vraiment, on en apprend. C'est merveilleux ce qu'elles ont fait, deux femmes-là. Et elles me disaient, vous savez, Yannick, hors onde, souvent, on a des discussions qui se prolongent et on souhaiterait tellement que ça puisse être enregistré, mais... Elle me disait qu'elles avaient d'ailleurs toutes les deux la conviction qu'il ne fallait pas qu'elles s'arrêtent. Il y en a une des deux qui est Lise Saint-Charles qui me disait, moi là, depuis le temps que je travaille dans l'autisme avec les autistes, je pourrais prendre ma retraite, mais je ne peux pas. Comme une responsabilité de faire encore avancer cette connaissance-là, de ce qu'est l'autisme, quoi, qui n'est pas une déficience intellectuelle, qui est une situation exactement complètement inexplicable, mais de plus en plus expliquée grâce à leur travail. Alors vous ne nous amenez pas, hein, merci Yannick, hein, je suis contente que vous ayez apprécié ce livre-là, et vous pourrez réentendre l'entrevue quand l'émission sera diffusée, c'est-à-dire dans 2 semaines. Elle va être diffusée le 2 novembre, cette émission-là, et alors vous pourrez entendre tout cela.
Tout à fait.
La main d'Imane, ben, oui?
Oui, je vous amène dans un autre univers, mais qui parle aussi, ou en fait, qui sert aussi à la compréhension de l'autre, comme pour l'autisme. Dans ce cas-ci, en fait, moi, je vous amène sur le terrain de l'immigration avec La main d'Imane de Riyad Hassani-Razaki. C'est un roman qui a été publié en 2011 et c'est la lecture la plus bouleversante que j'ai faite en 2011. Et ça reste pour moi un coup de cœur encore. On est en 2017 et il n'a pas été égalé pour moi depuis que j'avais commencé à tenir mon blog à l'époque.
Ah, oui.
Et vous savez que je l'ai lu de 100 livres par année. Donc,
oui. <C'est> pas... Là, je vois Thibaut Timmerman qui me regarde et qui me fait des yeux.
comment vous faites? C'est quoi votre recette, s'il vous plaît?
Et... Ça se fait par osmose.
C'est une très bonne réponse.
Alors, donc, La main d'Imane, est-ce qu'on précise tout de suite qu'en plus, c'était un premier roman?
Oui, c'est très important parce que, je vous dirais, c'est magistral comme premier roman.
Ah, oui.
Vraiment magistral. Il s'est même valu le prix Robert Klich du premier roman en 2011.
Oui, et jamais ce prix Robert Klich n'a su trouver un auteur aussi fantastique. En tout cas, c'est ce que tout le monde a dit à l'époque. Hein?
Ah oui.
Bon.
Ah oui, et puis je vous dis, en tout cas moi je suis convaincue, puis ça a été pour moi un coup de cœur pour l'œuvre, mais aussi pour l'auteur qui est fort sympathique que j'ai rencontré à plusieurs reprises parce qu'on le voyait avec ses écouteurs autour du cou dans les événements littéraires et tout ça. C'est un roman...
Parce qu'il vit ici, fait... excusez-moi, je pensais qu'il était français. Ah, il vit ici au Québec.
Oui, oui.
Ah.
Il est originaire du Bénin. Il vit au Québec. Des fois, il va à Toronto, mais il se promène entre Montréal et Toronto depuis 2004. Donc, il a voulu, lui, en fait, parler de l'immigration. Qu'est-ce qui pousse à partir? Mais c'est pas son histoire à lui du tout, du tout. Donc, c'est l'histoire de jeunes dont le protagoniste, pardon, mon Dieu, j'ai de la difficulté, le protagoniste.
C'est pas un mot facile, hein?
Non. Toumani a été vendu pour quelques sous à une dame qui se livrait au commerce d'esclaves. Alors, on est en Afrique noire précisément, et c'est quelque chose qui se faisait encore il y a quelques années, peut-être qu'il se fait encore. Là. Alors, Toumani se retrouve chez, il est vendu chez M. Bia, qui est un homme qui a une propension pour l'alcool, les femmes, la violence, et qui maltraite gravement Toumani.
Mmh.
Un jour, parce qu'il est trop amoché, il décide de le laisser pour mort dans un égout. Et pendant 3 jours, le petit reste là parmi les déchets et les rats avant d'être secouru par une bande d'enfants. Et c'est Imane qui lui tendra la main, alors là on voit le titre, pour le sortir du trou dans lequel on l'a jeté. Et là, bien sûr, il va y avoir une solide amitié qui va se tisser entre les deux garçons. Ils vivent maintenant dans la rue, seuls, avec leur bande de jeunes. Et ce lien-là, il est inébranlable et d'une importance capitale pour les deux, même si Imane chérit le rêve de quitter le pays pour aller en Europe où son père habite. En fait, Imane est ce qu'on appelle un métis, c'est-à-dire qu'il est issu d'un père blanc et d'une mère noire. Donc, il est stigmatisé, ostracisé, victime de xénophobie et de racisme parce qu'il est trop pâle, il est trop blanc. Alors, un jour, il va y avoir une rencontre avec une jeune fille que Toumani a connue chez Tanti Caro, et cette rencontre-là va bouleverser la destinée des deux garçons et de la jeune fille. Je vous en dis pas plus.
Non,
parce
mais
que c'est un livre qui est très dense.
Oui. Et dur aussi, parfois, je pense. Hein.
Parfois, justement, dur à lire parce que il y a des propos qui sont des moments qui sont dérangeants. Ouais. Pas des propos, mais les moments sont dérangeants.
Bien sûr.
Mais
essentiel, de... nécessaire.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un mal qui fait du bien. Parce que je crois que c'est nécessaire et c'est très bien amené, hein, l'écriture de Riad est à la fois fluide, précise, sans accroc. Elle est aussi poétique.
Ah, oui.
Et les personnages sont authentiques et émouvants, vraiment. J'aurais pas le temps, j'aurais aimé vous lire juste un petit paragraphe. Là,
mais allez-y pour un petit paragraphe. Allez, ça va me faire plaisir. Oui, ça nous fait plaisir parce qu'on sent qu'on touche encore une fois un livre essentiel. Et... Oui, allez-y.
Oui, le petit paragraphe porte sur la valeur de l'humain. Tout ça était évident pour moi. Les gens font beaucoup d'enfants. Ainsi, dans le cas où ils en perdraient un, ils en auraient déjà un autre pour le remplacer. Tout ça était évident pour moi, jusqu'au jour où Imane m'a sauvée. Ce jour-là, j'ai vu des gens se battre pour moi. Je me suis demandé pourquoi ils ne me laissaient pas simplement mourir. C'est vrai, il y a tant d'autres enfants. Pour la première fois, je me suis dit que, peut-être, la quantité ne diminue pas la valeur. Peut-être qu'une vie n'en vaut pas une autre, que chaque individu a de l'importance. Même moi, Toumani, née un jour inconnu, d'un père inconnu et d'une mère inconnue. C'est le don qu'Imane m'a fait. Il a fait germer en moi l'idée que j'avais non pas le droit, mais le devoir de vivre. Et à partir de ce moment-là, cette idée ne me quitterait plus jamais.
Oh, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Vous savez quoi, je vais retenir non seulement le livre, mais l'auteur, et je vais l'inviter. Il faut qu'il vienne à mon émission à tout prix. Vraiment, vraiment. Yannick, merci infiniment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir au courant. Et puis, si un jour il fait mon émission, je vous inviterai à y participer. Ça vous va?
Ah, ce serait vraiment chouette.
Ce serait chouette, hein? Eh bien, écoutez, c'est le moins que je puisse faire pour vous et pour votre fidélité à notre émission. Merci beaucoup, Yannick, et très belle journée à vous. J'ai hâte de vous retrouver.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Quelques nouveautés en rafale tout de suite. D'abord, le sous-majordome de Patrick DeWitt, DEWITT. Nous sommes avec Lucien Minor, un menteur compulsif, un vilain petit canard de son hameau natal qui a accepté le poste de sous-majordome au château de l'énigmatique baron d'Aux, D-O-A-U-X, niché au-dessus d'un village où grouillent voleurs, aristocrates, quelques fous et où surtout resplendit la très belle Clara. Sa décision lui fera vivre bien des péripéties, y compris le grand amour, le plus cruel des chagrins, et une pulsion meurtrière irrépressible. Il paraît que c'est à ne pas manquer le sous-majordome de Patrick DeWitt, que j'inviterai d'ailleurs aussi à l'émission. Lui, c'est un habitué, deux fois déjà, nous l'avons reçu ici, Robert Lalonde. Il nous arrive cette fois-ci avec La liberté des savanes. À demi-mort, mort vivant, mort en sursis, mort de peur, en danger de mort, la mort dans l'âme, plus mort que vif, comme on voudra. Je découvre enfin que nous sommes tous éblouis par le soleil noir de la dernière heure, que c'est le lot des survivants, cette culpabilité de rescapé, doublée du désir fou de se traîner vaille que vaille dans la lumière. Il ne s'agit pas de mériter, de jouer au héros, ce que les autres appellent le bonheur, un mot que je ne comprenais pas et ne comprends d'ailleurs toujours pas, dit Monsieur Lalonde. Je décide de le nommer contentement de vivre et j'entends bien désormais le chercher et le trouver tout seul. Voilà cet extrait de La liberté des savanes de Robert Lalonde. Et puis, je vais finir ces rafales avec un livre assez dur qui s'appelle « Triptyque de la violence » qui est de Natacha Apana. Tropique de la violence, j'ai dit triptyque, hein, je pensais, Tropique de la violence. Tropique de la violence qui est une plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même, où ça, sur l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien. Dans ce pays absolument magnifique, sauvage et au bord du chaos, ce sont 5 destins qui vont se croiser et nous révéler la violence de leur quotidien. Dans la presse, on pouvait lire un 6e roman de Natacha Apana d'une brûlante actualité. Dans le Journal du Québec, on nous disait un roman déchirant qui nous plonge tête première dans la dure réalité des habitants de cette petite île de l'océan Indien. Un des romans les plus violents de la rentrée, lisait-on dans Le Point, mais aussi un des plus beaux. Un roman choral lumineux qui décrit l'orage qui gronde à Mayotte. Dans l'Express, on écrivait « On sort soufflé par la force et la grâce de ce roman né d'un long séjour de l'auteur sur l'île mahoraise, ce petit bout de France de l'océan Indien, en prise avec toute la misère du monde. » Alors un livre pas facile, mais là aussi sûrement essentiel, nécessaire, « Tropique de la violence » de Natacha Apana. Apana s'écrit A-P-P-A-N-A-H. Alors, on va se quitter sur la bande-annonce d'abord de la semaine prochaine. Je vais recevoir Marie-Hélène Poitras, qui est la co-auteure du livre « Les Superbes ». C'est une enquête sur le succès et les femmes, et c'est proprement magique. Elles sont allées chercher des témoignages de Louise Arbour, Cœur de pirate, Martine Delvaux, Mitsou Gélina, Perrine Leblanc. Donc, des femmes toutes aussi différentes les unes que les autres. Et alors qu'on vient à nouveau de se replonger dans le scandale de ces hommes qui vraiment ne savent pas agir envers les femmes, eh bien, on nous présente ces femmes qui se dressent avec ce livre de Marie-Hélène Poitras et Léa Clermont-Dion. C'est la semaine prochaine. Merci à toute mon équipe et à mes invités aujourd'hui. En 15 secondes, est-ce que je vais réussir à dire leur nom? Brigitte Harrison, Thibaut Temmerman, Lynn Saint-Charles, Lise Saint-Charles, Michel Brûlé et Yannick Olassa. Merci à Mathieu Tessier en régie. Bonne semaine.